Soyez bienvenus. Toute l'équipe d'International est heureuse de vous retrouver sur les antennes de RFI, sur celle de TV5 Monde, en liaison avec le quotidien Le Monde. Et aujourd'hui, nous avons ces trois titres choisis en quelque sorte de prendre tous les risques en matière d'audience, puisque pendant près d'une heure, nous allons parler de l'Europe. L'Europe que l'on dit en crise, l'Europe que l'on dit divisée, qui surmonterait des difficultés. Vous voyez ça sur l'ensemble des titres de la presse française ou internationale. Et nous avons choisi, en plus, d'inviter un multirécidiviste de l'Europe, Pierre Moscovici, merci d'être avec nous. Je dis cela parce que vous avez occupé, on va le voir dans le portrait, vous avez occupé toutes les fonctions européennes, vous avez été président du mouvement européen avant d'être parlementaire, ministre et puis maintenant commissaire européen. Nous avons beaucoup de questions à vous poser sur l'actualité de cette Europe, sur son rôle, sur ses valeurs, sur les difficultés qu'elle surmonte au quotidien, avec Sophie Malibaud de RFI et avec Philippe Ricard du quotidien Le Monde. Avant de vous poser ces questions, rappel en forme de portrait.
Député européen, ministre des Affaires européennes, commissaire européen. En deux décennies, Pierre Moscovici a gravi tous les échelons de la politique européenne, au niveau national comme au sein des instances communautaires. Celui qui a fait carrière au Parti Socialiste Français dans le sillon de Dominique Strauss-Kahn a finalement rallié François Hollande qui, une fois président, le fait accéder aux fonctions les plus importantes, ministre de l'économie et donc commissaire européen aux affaires économiques. Ce qui ne l'empêche pas aujourd'hui de faire la leçon à son ancien patron sur le rythme des réformes à entreprendre, car Pierre Moscovici est désormais le gardien du temple et du sacro-saint pacte de stabilité et de croissance depuis sa nomination en novembre 2014. Il faut respecter les règles, toutes les règles, lançait-il la semaine dernière aux dirigeants italiens qui réclamaient plus de flexibilité en matière de discipline budgétaire. Rigueur et réforme, quoi de plus normal pour celui qui est depuis 30 ans l'un des tenants du courant social-démocrate au sein du PS.
Désormais, c'est sur les économies de dépenses publiques que repose l'effort de réduction des déficits que nous poursuivons.
Mais aujourd'hui, ce discours, fidèle aux principes qui ont guidé la construction européenne, est-il suffisant pour maintenir en vie une union moribonde ? L'actuelle crise migratoire montre une nouvelle fois les limites de la solidarité entre pays membres. Et face aux demandes des pays les plus touchés, Pierre Moscovici se voit forcé de considérer l'accueil des migrants comme une possible circonstance exceptionnelle ouvrant la voie à des dépassements de déficit. Que dire alors de la crise grecque et de la volonté allemande de pousser Athènes hors de la zone euro si les volontés des créanciers n'avaient pas été respectées ? Un épisode qui semble avoir un peu plus éloigné les citoyens européens de leurs institutions. Des institutions auxquelles les Britanniques pourraient d'ailleurs choisir de tourner le dos lors d'un référendum qui aura lieu en 2017. Mais Pierre Moscovici est, lui, un éternel europhile. Toutes les difficultés actuelles renforcent sa conviction qu'il faut établir une gouvernance économique de la zone euro. Une zone euro qui aurait un super ministre des Finances, cet élève modèle de la politique européenne serait alors un candidat idéal.
Voilà, on laissera cette conclusion à David Gilbert sur les perspectives de carrière. Un mot de contexte général avant de parler de l'actualité et de ces frappes françaises en Syrie actuellement. L'Europe, à laquelle vous croyez, vous avez travaillé depuis plus de 20 ans, elle traverse une phase de profond désenchantement.
Une phase risquée, en tout cas. C'est vrai qu'il y a des ferments de division, de désunion dans l'Europe qu'il faut combattre. Et je pense en effet que le cocktail traditionnel, rigueur, réforme, ne suffit pas. Il faut au contraire avoir une perspective qui soit beaucoup plus ambitieuse, d'abord sur le plan économique. La priorité de cette commission, c'est pas rigueur, réforme, c'est la croissance et l'emploi à travers des politiques qui vont toutes dans le même sens, qui comportent un sérieux budgétaire, qui comportent des réformes structurelles, mais qui aussi veulent muscler l'investissement et la justice sociale. Et puis, à côté de ça, on voit les deux crises jumelles que nous traversons. La crise grecque, d'une part, qui interroge profondément la gouvernance de la zone euro. Qu'allons-nous faire de cette zone euro ? Et de l'autre côté, cette crise des réfugiés, qui est vraiment une interrogation existentielle et qui nous renvoie, je pense, à un certain nombre d'ambiguïtés que nous n'avons pas levées au moment où nous avons fait l'élargissement. J'ai, c'est vrai, fait un peu le tiercé dans le désordre. J'ai été membre du Conseil, comme on dit. J'ai été ministre des Affaires européennes pendant 5 ans, ministre des Finances pendant 2. J'ai été parlementaire européen, vice-président du Parlement européen. Maintenant, je suis commissaire européen et j'ai passé beaucoup de temps à l'unification de cette Europe. Je constate qu'il y a dans les mentalités, dans les psychologies, dans les cultures, dans les approches politiques de l'Europe encore des choses qu'il faut consolider. Bref, il est temps de donner des résultats et du rêve. Alors, et ça, c'est pas le business as usual. Il faut changer de braquet, très clairement. Et cette commission, croyez-le, on est consciente. C'est pour ça que c'est une commission très politique.
Nous allons bien sûr parler de ces thèmes, des réfugiés, et puis de la situation économique à travers la Grèce. Un mot de l'actualité la plus récente, qui n'est d'ailleurs pas déconnectée, bien sûr, des réfugiés, de ce qui se passe en Syrie, avec la France qui a frappé militairement pour la première fois. On peut simplement constater que l'Europe en tant que telle est absente. C'est hors de votre portefeuille, mais il n'y a pas de diplomatie européenne ni défense européenne.
D'abord, il y a quelque chose qui s'est beaucoup amélioré ces derniers temps, c'est que maintenant, vous savez qu'il y a un haut représentant qui est une haute représentante.
Il y avait déjà, elle n'a pas marqué l'histoire.
Je pense que Mme Mogherini fait un travail extrêmement sérieux. D'ailleurs, elle préside ce qu'on appelle le Conseil Relations Extérieures et je pense que ça contribue à unifier les positions européennes et elles doivent l'être davantage. Alors, c'est vrai qu'il n'y a pas encore d'Europe de la défense, il n'y a pas encore d'Europe de la politique et de la sécurité, il y a une volonté d'harmoniser. Et dans cette affaire-là, je pense qu'il faut dire deux choses. La première, c'est qu'il y a absolument besoin de mettre fin à ce conflit en Syrie et de faire en sorte que Daesh puisse cesser ses exactions. C'est quelque chose qui est aujourd'hui absolument terrifiant. Et donc, de ce point de vue-là, l'action militaire, je n'ai pas commenté ce que fait la France, je ne suis plus aujourd'hui un dirigeant français, l'action militaire est une composante essentielle. Et la deuxième chose, c'est qu'on a besoin aussi d'une solution politique, d'une transition politique. Et de ce point de vue-là, ce que je constate, et nous sommes pendant l'Assemblée Générale des Nations Unies, c'est qu'il y a de la part des Européens, d'une part une volonté d'action, d'autre part une volonté de se coordonner. Et c'est une bonne chose. Plus l'Europe sera unie en la matière, plus l'Europe sera déterminée, plus l'Europe sera forte, plus elle contribuera à cette solution dont le monde a besoin.
Est-ce que vous croyez que les Européens vont s'accorder sur le type de transition politique qui doit être mise en œuvre en Syrie entre M. Cameron, Mme Merkel, François Hollande? Les approches semblent assez divergentes pour l'instant.
Notamment par rapport à Bachar al-Assad.
Comme l'a dit Philippe Dessin, je suis aujourd'hui le commissaire aux affaires économiques et financières et je ne veux pas m'engager trop loin dans ce sujet-là.
Mais est-ce que vous estimez qu'il doit y avoir une position harmonieuse?
Je pense évidemment, et je l'ai dit, que les Européens doivent se coordonner pour chercher des positions qui soient aussi commune que possible. Et je disais, c'est pas mon dossier, mais en même temps, je le suis avec intérêt et passion. D'abord, il interréagit avec la crise des réfugiés, en effet. Et ensuite, c'est quelque chose qui remet en cause profondément l'existence de l'Europe. Je pense que l'Europe a besoin aujourd'hui d'un saut en avant, d'un bond en avant, d'un saut qualitatif. Il ne faut surtout pas qu'elle se replie sur elle-même, il ne faut surtout pas qu'elle retourne en arrière, qu'elle régresse. Et donc, oui, je pense que c'est possible. Quand j'observe ces positions, telles qu'elles sont au départ, elles ne sont pas absolument identiques, mais ne me paraissent pas incompatibles. Et je dirais, comme le ministre des Affaires étrangères français, Laurent Fabius, que j'y vois davantage des nuances que des divergences. Et ça me paraît plutôt encourageant. Les positions françaises elles-mêmes, d'ailleurs je l'observe, même celles de Laurent Fabius, ont évolué.
Donc vous estimez qu'on doit désormais discuter avec Bachar al-Assad, comme dit Mme Merkel?
Ce que je pense, c'est qu'il faut que les Européens soient capables de définir ensemble une approche commune de la transition politique, et ensuite, dans cette approche de la transition politique, d'agir ensemble. Et je pense que c'est vraiment leur volonté, et je pense qu'il n'y a rien d'insurmontable qui les en empêche. Je souhaite qu'ils le fassent. Je sais que c'est aussi la position qui est défendue à la Commission européenne et par la Commission européenne.
Philippe Ricard, Le Monde.
Juste peut-être pour préciser sur la crise des réfugiés, directement liée à ce qui se passe en Syrie, effectivement. Comment vous expliquez ce manque de solidarité? Pourquoi les pays d'Europe centrale, à commencer par la Hongrie d'ailleurs, ont-ils joué ce jeu-là? On a senti aussi du côté allemand fort peu de coopération pour essayer de juguler les flots ou d'accueillir ensemble tous ces réfugiés. Comment vous expliquez ce manque de solidarité?
Mais je vais revenir à ce que je disais, c'est-à-dire aux différences culturelles. Pardonnez-moi, je vais faire un détour un peu personnel. Il se trouve que je suis un Européen de naissance, en quelque sorte, et un Européen aussi de l'autre Europe. Mon père est né en Roumanie. Il est venu après-guerre, en France, où il a été réfugié. Pas un réfugié provisoire. Quand il est venu ici, il n'a pas pensé qu'il allait rester quelques années. C'était le pays qu'il avait choisi et le pays qu'il avait accueilli. Il n'y voyait aucune allusion à quoi que ce soit dans la politique nationale française.
Vous lisez M. Sarkozy, là, clairement.
Je trouve en effet qu'un réfugié, c'est un réfugié. Et que soit on l'accueille, soit on ne l'accueille pas, mais qu'il a aussi besoin de lever une incertitude, de pouvoir fonder une famille, de pouvoir travailler, quitte à choisir ensuite de retourner. Puis il y a tellement d'ambiguïté dans tout ça. Réfugié de guerre, quand une guerre se termine, est-ce que pendant la guerre civile espagnole, on va dire la guerre est finie, maintenant vous allez retourner chez Franco quand vous êtes un républicain? Bref, je pense qu'il faut en rester au principe du droit international. Mais c'était pas ça. Je me suis laissé emporter. Ma famille maternelle était polonaise. Et quand je suis devenu ministre des Affaires européennes, en 97, c'était les années d'après la chute du mur, et j'ai agi avec ardeur, avec passion, pour que ces pays rejoignent l'Union européenne. Nous le devions. Le bloc soviétique était tombé, nous avions un devoir de liberté. Et il fallait le faire. En même temps, Nous l'avons fait sans lever toutes les ambiguïtés. D'abord, nous n'avons pas suffisamment approfondi les institutions. Vous vous souvenez du traité de Nice, qui était un traité mal foutu, mais qui était fait uniquement pour permettre cet élargissement, mais qui a ensuite suscité toute une série de manques dont nous continuons à pâtir. Et puis nous n'avons pas non plus levé les ambiguïtés culturelles. Quand je vois M. Orban qui explique que l'Europe est chrétienne et ne saurait être multiculturelle, là, on a un choc de conception.
Ce ne sont pas les valeurs fondatrices de l'Europe, ça.
Mais non, parce que, bien sûr, il y a une majorité de chrétiens en Europe, mais... Quand j'entends le pape, qui est en voyage aux États-Unis en ce moment, expliquer qu'il faut que chaque paroisse accueille des réfugiés, il ne dit pas qu'il faut accueillir un chrétien. Il dit qu'il faut accueillir un être humain. Et l'aspect multiculturel, il peut être différent selon nos civilisations. Nous n'avons pas les mêmes traditions. Ce sont des débats qui doivent être posés. Mais en tout cas, il ne peut pas être écarté. Et je pense, si vous voulez, que derrière ça, il y a des différences d'approche historiques, il y a des différences culturelles qui se retrouvent dans des positions politiques. Et c'est la raison pour laquelle nous devons absolument, mais absolument, continuer à travailler pour que l'Europe parle d'une voix commune. Et de ce point de vue-là, le Conseil européen a été plutôt une bonne rencontre, parce qu'il a permis justement une voix commune, il a permis des solutions communes, avec ce mécanisme de répartition équitable des réfugiés qui est indispensable. Je note d'ailleurs que la Commission l'avait proposé il y a déjà 6 mois, qu'elle n'avait pas été écoutée à l'époque. Vous vous souvenez que Jean-Claude Juncker avait dit, en sortant d'une réunion des chefs d'État et de gouvernement, c'est décevant. Et on en a mis 6 mois à faire ce que proposait la Commission.
Est-ce que ce dispositif n'est pas déjà sous-dimensionné? Parce que finalement, se répartir 120 000 personnes en autant d'ailleurs...
Non, c'est 160 000, 40 000 maintenant, ouais. 120 000 ensuite.
C'est pas déjà un petit peu dépassé ce genre de chiffrage?
Je pense que ce sont des chiffrages qui correspondent à ce que nous avons aujourd'hui. C'est une crise qui est très importante. On parle uniquement de réfugiés, hein. On parle pas de l'ensemble de ceux qui viennent en Europe. On sait aussi qu'il y a des situations économiques qui sont différentes selon les pays, des capacités à accueillir qui sont différentes. Vous parliez de l'Allemagne. L'Allemagne est un pays qui, par sa démographie, par ses besoins économiques, a besoin de main-d'œuvre, besoin d'accueillir. Et je note d'ailleurs qu'on ne parle jamais de l'impact macroéconomique de cette crise des réfugiés. Pour moi, l'impact macroéconomique n'est pas négatif. Il peut y avoir des coûts à court terme.
C'est une opportunité aussi.
Il faut en faire une analyse un peu précise, et nous sommes en train de le faire à la Commission européenne. Il peut y avoir des coûts à court terme, les programmes, ce que ça coûte aux finances publiques. Il y a aussi à moyen terme des apports, dès lors que ce sont des hommes et des femmes qui, d'une part, vont trouver du travail, d'autre part, vont consommer sur ce pays, sur nos pays. Et au final, je pense que l'impact macroéconomique de moyen terme est plutôt positif pour les économies.
Alors
avec des effets sur les mains-d'œuvre qui sont un peu compliqués, sur le type de compétences que peuvent avoir ces personnes, formation. Mais au final, ne considérons pas que c'est un fardeau. Ça fait aussi partie, oui, des opportunités.
Alors vous évoquez une Europe politique. Comment l'Europe doit-elle réagir face à ce qui se passe en Hongrie, Monsieur Orban, le Premier ministre qui met des barbelés, qui autorise son armée à réprimer donc ces réfugiés. Guy Verhofstadt propose de lancer une procédure contre Budapest. Est-ce que vous n'êtes pas trop indulgent, la Commission ou l'Europe n'est pas trop indulgente envers Orban?
Je jouais décidément les anciens combattants aujourd'hui, mais...
C'est même l'article 7, hein, dans le traité européen.
Oui, je le connais bien, parce que en 2000, vous vous souvenez qu'à l'époque, il y avait eu en Autriche, le pays voisin de la Hongrie, on n'est pas en train de reconstituer l'Empire austro-hongrois, mais enfin, des élections qui avaient porté au pouvoir une coalition formée de la droite, de l'extrême droite.
Absolument.
À l'époque, c'était M. Haider. Et les Européens, et j'avais été largement à l'initiative de cela, en poussant beaucoup le Premier ministre de l'époque, le Jospin, le président de la République de l'époque, Jacques Chirac, avait fait jouer l'article 7 et il y avait des sanctions qui n'avaient pas été très efficaces.
Les Allemands étaient très bons.
Absolument. Et donc, bon, je veux dire, avec le temps, je dirais que j'ai eu une réaction et que les Européens ont eu une réaction émotionnelle, forte de valeur, et il faut l'avoir. Et en même temps, il faut avoir des réactions politiques. Et je ne sais pas si c'est tout de suite à cela qu'il faut penser. En même temps, j'ai une différence fondamentale avec M. Orban. J'en ai deux. La première, c'est une différence de fond. Non, je ne pense pas que l'Europe soit purement chrétienne. Je ne pense pas que ce sont des chrétiens que nous accueillons. Je pense que ce sont des êtres humains, quelle que soit leur religion. Et on sait que pour la majorité, ils ne sont pas chrétiens, en vérité. Et j'en déduis une deuxième chose, c'est que l'Europe a effectivement des aspects multiculturels que nous devons assumer, que nous devons vivre différemment selon nos pays. Mais je suis radicalement hostile à l'Europe des barbelés, à l'Europe des frontières refermées.
Mais on ne respecte pas les valeurs, ni les traités. On ne peut pas le sanctionner, le suspendre, l'avertir.
On ne peut pas tout à fait dire ça, parce que les valeurs, nous n'avons pas voté la Constitution européenne, donc le bloc du constitutionnel n'était pas si fort que ça. Il va s'appuyer sur son opinion publique et il met en place un discours cohérent, un discours que je rejette, mais un discours cohérent. Oui, et par ailleurs, il va vous dire qu'il ferme sa frontière avec la Serbie, qui n'est pas un pays membre de l'Union européenne. Donc je pense qu'il faut poursuivre le dialogue avec, en même temps, une très grande fermeté sur nos valeurs. C'est ça d'ailleurs qui a permis une conclusion positive du Conseil européen finalement, je veux dire presque malgré lui. Et enfin, une dernière dimension par rapport à M. Orban, qui est la dimension des partis politiques. Nous appartenons dans l'Union européenne à des formations politiques pan-européennes. Moi je suis social-démocrate, ça a été dit, je suis socialiste, je le reste. À la Commission européenne, tout le monde d'ailleurs a un drapeau. Même si on s'efforce toujours de travailler par consensus, mais il y a des conservateurs du PPE, le Parti Populaire Européen, il y a des libéraux, il y a des socialistes. Et c'est une question que peuvent aussi se poser les partis politiques. Et je sais qu'au sein de la formation politique de M. Orban, certains se la posent. J'ai vu une interview de Mme Reding, par exemple, ancienne commissaire européenne, qui en parlait.
Et vous pensez que M. Orban devrait être exclu du Parti Populaire Européen, donc qui rassemble les partis de droite?
Je ne dis pas ça européen. Parce que moi, je n'ai pas à le dire. Je ne suis pas membre de ce parti et je n'ai pas donné de leçon à un autre parti.
Et c'est ce que vous suggérez pour
Non, je dis simplement que j'essaie d'envisager méthodiquement quels sont les lieux sur lesquels on peut agir. D'abord, la conviction au sein du Conseil européen. Ensuite, l'affirmation de nos propres valeurs et le fait de ne pas se laisser influencer. Et la Commission européenne a un cap par rapport à ça. Et troisièmement, il y a aussi, tout ça avant l'article 7, les partis populaires européens, les partis européens qui ont le rôle à jouer. Je le dis encore une fois, sans leur donner la moindre leçon. Je n'aimerais pas que quelqu'un me dise, vous devez exclure tel ou tel parti du Parti Socialiste Européen. Je note quand même que nous sommes en train, au Parti Socialiste Européen, de nous poser la question d'un autre parti, parce qu'il n'y a pas que M. Orban, qui est le parti slovaque de M. Fico, parce que ce parti n'a pas des comportements ou des réactions différentes de celles de M. Orban. M. Orban n'est pas seul. Hein. M. Orban a un clan, un courant.
M. Fico a également mis en cause l'arrivée de réfugiés.
Absolument,
c'est ça.
Hein. Et les socialistes du PSE, notamment au sein du groupe, se sont posés la question déjà et se la posent.
On a vu une montée des tensions, y compris à la frontière serbo-croate, qui une montée des tensions telle qu'il n'y en avait pas eu depuis la guerre des années 90. Est-ce que la Commission prend la mesure du danger de la situation, si cette crise continue d'être gérée aussi mal, si les mesures prennent tellement de temps à être mises en œuvre, est-ce qu'il ne faudrait pas que tout d'un coup il y ait une sorte de plan Marshall avec les pays qui en ont les moyens, qui se mettent volontairement plus en avant, et qu'on arrête de laisser les migrants errer d'une frontière à l'autre?
Je pense que la Commission, je le dis avec d'autant plus d'humilité que ce sont mes collègues Frans Timmermans, Dimitri Samarvampoulos et Federica Mogherini qui gèrent le sujet tous les jours. Je pense que, sous l'autorité de Jean-Claude Juncker, la Commission a pris la première la mesure de ce phénomène.
C'est la Commission
qui propose les solutions les plus ambitieuses, parce qu'on parlait tout à l'heure de l'accueil, de la répartition équitable. Et c'est vrai que c'est ce qui est le plus spectaculaire, parce que c'est dans le débat public, mais il y a autre chose. Il y a aussi le renforcement des frontières extérieures. C'est ce que nous avons fait en proposant des moyens pour Frontex, pour Europol. Il y a l'aide aux pays tiers. Tenez par exemple la Turquie.
Un milliard pour fixer les réfugiés, dans les pays voisins de la Syrie. Est-ce que c'est suffisant? Un milliard.
Écoutez, ça tient aussi à nos capacités budgétaires, mais je veux dire, ce ne sont pas tous des pays qui sont totalement dénués de moyens. Quand nous pensons à la Turquie, par exemple, qui est un pays avec qui nous coopérons évidemment fortement, c'est un pays qui est un pays puissant. Et puis derrière ça, il y aura aussi la dimension du retour, des réadmissions, et la dimension économique devra être prise en compte le moment venu.
La fracture en Europe, on l'a longtemps présentée comme Nord.
Plan Marshall. Ne mettons pas des plans Marshall. On parle tout le temps de plan Marshall. Le plan Marshall était quelque chose de considérable dans une situation
particulière
de reconstruction.
Vous parliez de conséquences macroéconomiques.
Oui.
Est-ce qu'il n'y aurait pas un plan exceptionnel à mettre en œuvre pour permettre l'intégration de ces personnes et pas uniquement...
Au sein de l'Union européenne?
Oui.
Mais je souhaite vraiment qu'il y ait des mesures fortes qui soient prises en la matière. Mais ça découle aussi des États nationaux. Ce ne sont pas les mesures qui doivent être uniquement des mesures communautaires. Et ça suppose une approche commune du problème des réfugiés, de leur intégration. Et c'est ça aussi que nous proposons. C'est pour ça que je ne suis pas, moi, pour qu'on remette en cause en quoi que ce soit le droit international. Mais en même temps qu'on se protège, qu'on protège nos frontières.
Nous avons encore beaucoup de questions à vous poser. Le temps de faire sur les antennes de RFI et TV5 Monde un point de l'actualité. On se retrouve dans 2 minutes.
Un Vous écoutez RFI, il est 12h30 à Paris, 10h30 temps universel.
Chantal Leroux.
Le tour du monde de l'actualité.
Retour international. Nous recevons aujourd'hui Pierre Moscovici, commissaire européen aux affaires économiques et monétaires, à la fiscalité, à l'union douanière. Beaucoup de questions à vous poser sur la situation économique, naturellement, de l'Europe actuellement. Nous parlions des réfugiés. Il y a un débat. Faut-il ou non revoir Schengen? Derrière le nom de cette ville des Pays-Bas, il y a la libre circulation des citoyens. On voit que certains pays ont fermé leurs frontières. Qu'est-ce que vous pensez de cela? Est-ce que, comme le disent certaines personnalités politiques, Schengen est à bout de souffle?
Si vous dites à Jean-Claude Juncker que Schengen est aux Pays-Bas, il va être très fâché.
Ah oui, pardon, vous avez tout à fait raison.
Luxembourg. Près de toutes les frontières.
Je vous prie de bien vouloir.
À l'endroit où les trois pays se mêlent, il le choisit là, parce que justement, c'est à la frontière.
Je vous prie de m'excuser.
C'est tout à fait logique. On peut penser que c'est aux Pays-Bas, on peut penser que c'est en Belgique, on peut penser que c'est en Allemagne,
et c'est en... Je fais mon mea culpa.
Non, je dis ça parce que je défends toujours les intérêts de mon président.
Vous avez
bien. Il est très fier. L'espace de libre circulation des citoyens.
C'est ce qu'il dit. En réalité, Schengen n'a pas été détruit par les décisions qui ont été prises récemment. Elles ont toutes été prises dans le cadre de ce qui est prévu, et qui sont des mesures de contrôle des réfugiés.
Qui doivent être temporaires, ces mesures de contrôle.
Qui doivent être temporaires.
Vous appelez à les lever le plus vite possible.
En tout cas, il faut qu'elles le soient à un moment donné. Et moi, je pense que Schengen n'est pas obsolète. Je pense qu'il n'est pas, il ne serait pas bon de réintroduire dans notre législation, je parlais tout à l'heure d'éviter les régressions, des notions de fermeture de frontières, des notions de nationalisme, des notions qui peuvent très vite dériver, adapter Schengen sans doute, revenir sur Schengen, détruire Schengen en aucun cas.
Alors, nous allons parler, si vous voulez bien, de ce qu'il était convenu d'appeler ou de ce qu'il est convenu d'appeler la crise grecque. Élection, et l'ancien Premier ministre Tsipras redevient Premier ministre, en s'associant d'ailleurs avec un parti un peu extrémiste, dont l'un des ministres a dû démissionner pour propos homophobes. Est-ce que c'est la fin de l'histoire?
Et antisémite,
c'est vrai.
Non, il a fait la totale.
Sur ce point-là. Est-ce qu'on est sorti du Grexit et du danger, du risque, ou de la perspective de sortie de la Grèce de l'Union Européenne? De l'euro.
Écoutez, moi, ce que je crois, c'est qu'après, plus que des péripéties, parce que ça a été quand même une discussion extrêmement longue, difficile, on a perdu beaucoup de temps, et le temps, c'est de l'argent, parce que si on avait fait un accord en mars ou avril, le coût du programme, qui est de 86 milliards d'euros, aurait été nettement inférieur. Monsieur Tsipras, aujourd'hui, est conscient qu'il n'a qu'une issue, d'ailleurs, il s'est engagé, c'est la mise en œuvre des réformes nécessaires pour que ce programme soit sur les rails, et aussi pour que la Grèce puisse toucher les sommes importantes qui lui permettent de financer son développement et de devenir enfin ce qu'elle doit être, c'est-à-dire une économie suffisamment compétitive et attractive pour appartenir à la zone euro. Et donc ce gouvernement, avec y compris la reconduction du ministre des Finances, M. Tsakalotos, que je connais bien, avec qui je m'entends bien, qui était l'homme de la négociation, contrairement à son prédécesseur, mais en tout ça c'était un jeu de rôle, hein. Je ne veux pas du tout accabler M. Varoufakis, je pense qu'il était là pour ne pas négocier. M. Tsakalotos était là pour négocier, même si les deux, au départ, idéologiquement, sont de la même eau. Mais en tout cas, nous avons des équipes avec M. Tsakalotos, M. Choulayarikis, M. Tsipras, qui sont des hommes et qui comprennent qu'il n'y a qu'un chemin, qui est le chemin de la réforme pour que la Grèce soit plus forte. Après, qu'ils le fassent avec leur sensibilité sociale, très bien. Et le social-démocrate que je suis ne peut que s'en réjouir. Mais je suis persuadé que ce gouvernement est un gouvernement avec lequel on peut travailler. Il faut toujours être vigilant.
Est-ce qu'il est le moment maintenant d'étudier le rééchelonnement de la dette grecque?
Je termine d'un mot sur ce que je disais avant. Je pense que nous devons rester toutefois vigilants. On ne doit pas baisser la garde. Nous avons des rendez-vous, nous avons ce qu'on appelle des revues, des examens, des programmes de réforme qui sont votés. Et c'est uniquement en fonction de ces revues que nous allons débourser les fonds pour la Grèce. Mais j'ai le sentiment que là, on est dans une approche qui est potentiellement coopérative, et c'est tout ce que je souhaite. C'est-à-dire que nous jouions gagnant-gagnant, gagnant pour la zone euro, qui garde son intégrité, qui préserve aussi son ambition, parce que la monnaie unique, c'est autre chose qu'une zone de taux de change fixe, et quand un État s'en va, c'est une dégradation en quelque sorte pour la monnaie unique, gagnant pour la Grèce, parce que je pense que la Grèce a gagné de ce programme très important, 86 milliards d'euros à nouveau, et de réforme. Alors, après.
C'est pas le moment de parler de réchauffement de la dette.
Vous parliez de la dette.
De la coupe, de l'aircut, enfin, de lever d'une partie de cette l'annulation.
Il n'y a pas de mystère. Devant nous, nous avons deux questions. Premier préalable, que le programme soit sur les rails, que nous travaillons ensemble, de la bonne façon. Et je prends, moi, comme une bonne chose, les engagements que M. Tsipras a déjà pris, et je les prends au sérieux. Et nous allons travailler avec le gouvernement grec. Je me rendrai en Grèce dans les prochaines semaines, naturellement. J'attendais les élections pour ce faire, pour voir comment nous allons pouvoir continuer une négociation fructueuse. Après, nous avons deux rendez-vous. Premier rendez-vous, la dette. Tout le monde sait que la question de la dette grecque est une question traitée. Tout le monde sait aussi, pas tout le monde, mais les Européens en tout cas ont une position, tout le monde sait comment ne pas la traiter. Quand je suis à la table de l'Eurogroupe, c'est-à-dire la réunion des ministres de l'économie et des finances de la zone euro, il y a le ministre grec, il y a les institutions, le Fonds monétaire international, la Banque centrale européenne, la Commission européenne, et il y a 18 autres États membres. Et vous ne trouverez pas un ministre de l'économie et des finances qui vous parlera d'effacer une partie de la dette, ce qu'on appelle le haircut. Non, tout le monde est contre.
Contrairement au Fonds monétaire international.
Contrairement au Fonds monétaire international, mais qui n'est pas dans la même situation non plus, parce qu'on parle de la dette des Européens. Et c'est vrai que j'ai été moi-même ministre de l'économie et des finances du pays dans lequel nous sommes, la France, et je sais ce que ça représente. Effacer la dette, ça veut dire qu'en réalité, c'est 1000 euros par Français, même si c'est à long terme, qui, d'un coup de plume, serait effacé. Et je sais aussi que ce serait une mauvaise incitation pour d'autres pays dont la dette est très élevée, parce qu'il y a la Grèce, dans l'Union Européenne, là, je suis commissaire aux affaires économiques et financières, vous parliez tout à l'heure de la visite que j'ai rendue en Italie il y a 8 jours, la dette italienne, elle frôle les 130%. Donc la dette française, elle est à 95, 96, 97.
Donc vous-même n'êtes pas favorable à l'annulation d'une partie de la dette grecque.
Je peux comprendre que les Européens ne le souhaitent pas, et je pense que ce n'est pas comme ça que nous devons aborder le débat.
L'argent qui s'est enfui de Grèce dans les paradis fiscaux, qu'est-ce qu'on met comme outil en place pour récupérer?
Je vous dis en même temps qu'il faut traiter cette question. Et nous avons des solutions. Sans vouloir être technique, vous avez deux approches. Vous avez l'approche de restructuration. Restructuration, c'est on efface la dette ou une partie de la dette. Je ne sens pas personnellement un appétit des Européens pour le faire. Et la deuxième, c'est ce qu'on appelle le rééchelonnement ou le reprofilage. Et là, il existe des solutions techniques sur l'extension des maturités des prêts, sur le taux d'intérêt des prêts, qui font que ces prêts courent plus longtemps. Pour le dire franchement, ce qui importe, c'est que le service de la dette soit réduit. Et je pense que de ce point de vue-là, il y aura une disponibilité de la part des Européens pour l'examiner. Et la deuxième question, elle est liée, c'est présence ou non du FMI dans le programme futur, et ma réponse, elle est claire, c'est oui. Je pense indispensable que le FMI soit autour de la table, je pense qu'il est un élément de sécurité et de garantie, et pour la Grèce, et pour un certain nombre de pays. Quand nous avons conclu l'accord dans l'Eurogroupe au mois d'août, il était très clair pour des pays, pas les moindres, notamment pour l'Allemagne, que la présence du FMI était une condition, et je souhaite ardemment que le programme se déroule dans des conditions suffisamment ambitieuses, que le reprofilage de la dette soit étudié de façon suffisamment ouverte pour que le FMI et Christine Lagarde soient à bord avec nous. Parce que, encore une fois, ce qui compte, c'est que ce soit une réussite, ouais. Tout ça. Réussite pour la Grèce, réussite pour l'Europe. Mon rêve, c'est qu'on parle moins de la Grèce. Qu'on en parle moins, parce que ce ne sera plus une crise, mais ce sera un pays de taille modeste, c'est 2% du PIB de la zone euro, qui retrouve tout simplement une vie économique normale et une vie sociale normale, avec des réformes aussi de justice sociale qui sont nécessaires, reconstruire un État, rebâtir une administration fiscale, mettre en place de la justice, en effet, et aller chercher l'argent où il est.
Exactement, depuis le début de la crise, en fait, donc la population grecque a souffert des réformes, enfin d'une mise à contribution, tandis que les capitaux fuyaient allègrement le pays pour aller se placer dans les paradis, en Suisse, etc. Que font les Européens pour récupérer cet argent?
Ça, c'est
qui est en quantité.
C'est aux autorités grecques de le faire. Je sais qu'elles mènent des négociations avec les uns et les autres. Et j'ajoute une chose, c'est que tout ce qui ira dans le sens de la justice fiscale en Grèce ira dans le bon sens. Parce que qu'est-ce qui a beaucoup fait souffrir les Grecs psychologiquement? Il y avait d'abord les programmes qu'on appelait programmes d'austérité, qui étaient des programmes d'ajustement, qui étaient malgré tout nécessaires, parce qu'il y avait une partie de l'économie grecque qui était une partie fictive. Quand vous regardiez les registres de paye des entreprises grecques, malheureusement, vous constatiez qu'il y avait un quart, un cinquième des gens qui n'existaient pas vraiment. Il y avait une corruption endémique, il y avait des inégalités absolument fracassantes. Pendant la crise, le PIB de la Grèce a reculé de 27%. Les revenus des Grecs les plus fortunés ont augmenté d'autant. Et ça, évidemment, pour la population, c'est insupportable. D'où le besoin d'une justice fiscale, pour laquelle la Commission milite. Mais en même temps, soyons quand même clairs, il y a une souveraineté. Et c'est à l'État grec de s'organiser sur le plan fiscal. C'est à lui de chercher à trouver des ressources. C'est à lui aussi de mener des négociations avec des pays tiers. C'est à lui, enfin, de mener une politique de justice fiscale. Mais croyez que la Commission est favorable à l'efficacité fiscale en Grèce et à la justice fiscale en Grèce.
Un autre pays que vous connaissez bien, il s'agit de la France, où vous avez occupé des fonctions très importantes, on l'a vu dans ce portrait. Est-ce que ça va mieux? Est-ce que l'élève France va mieux? On a vu que le mois dernier, 20 000 chômeurs de plus. Est-ce que l'économie, est-ce que le budget, est-ce que les réformes vont dans la bonne direction?
Oui. Comme Européen et comme Français, M. Ricard le sait, qui a longtemps été à Bruxelles, à l'époque où j'étais ministre de l'économie, j'ai toujours détesté ce qu'on appelle le French bashing, c'est-à-dire la critique de la France. Quand je me retrouve dans les institutions européennes et que je vois je ne sais quel parlementaire, parfois des journalistes même éminents, expliquer que...
Le French bashing s'est calmé, mais c'est pas pour autant que le chômage diminue en France.
J'y viens quand même, que la France est la Grèce d'après, que la France est l'homme malade de l'Europe, etc. Tout ça m'énervait, maintenant ça me fait sourire, parce que tout le monde sait que c'est faux. La France est une très grande économie, c'est la deuxième économie de la zone euro, mais c'est un pays qui a besoin de réformes profondes.
Ça va assez vite.
Les réformes, le pays bouge, ça c'est certain. Et ce que je peux dire aujourd'hui, c'est que mon sentiment, c'est que les taux de croissance prévus pour la France, tant pour 2015 que pour 2016, même si pour 2016, nous ferons nos prévisions économiques que je présenterai d'ici un mois, me paraissent assez crédibles, 1%, autour de 1,5%. C'est un peu inférieur à la zone euro. Je pense qu'il faut aller plus vite, il faut aller plus fort. Toutes les réformes qui permettent de déverrouiller l'économie et qui permettent de créer des emplois, y compris la réforme du marché du travail, me paraissent aller dans le bon sens. Mais c'est un pays qui bouge et retrouve son élan et que je dois aussi examiner du point de vue des finances publiques. Et de ce point de vue-là, les scénarios qui sont présentés par le gouvernement français... Il y a eu 3,9% de déficit en 2014. Ils disent 3,8% en 2015, ça paraît jouable, dès lors que la croissance est à 1% au moins. Et puis ensuite 3,3% et moins de 3%. C'est ça la piste vers laquelle on doit tendre. Mais j'encourage évidemment le gouvernement français à faire des réformes qui créent de l'emploi, des réformes qui déverrouillent l'économie, et des réformes aussi qui se traduisent sur le volet dépenses publiques par des économies substantielles. Je poursuis évidemment ce dialogue avec le président de la République et le gouvernement.
Vu de Bruxelles, qu'est-ce qui empêche les Français de créer des emplois? Quel est le verrou majeur?
Comparativement à d'autres économies voisines qui en créent.
Il n'y a pas de mystère. Ça fait des années que la Commission européenne appelle la France à un certain nombre de réformes. Certaines sont suivies aujourd'hui.
Hein.
Je pense que les réformes telles qu'elles ont été faites à travers la loi Macron sont des réformes qui permettent de débrouiller un certain nombre de mécanismes économiques, que le CICE, que le pacte sont des réformes qui permettent d'aller dans le bon sens, qui aident à l'entrepreneuriat, qui aident aussi les entreprises à investir. Je crois que les entreprises doivent prendre leur part de cet effort d'investissement, c'est très important. Et puis il y a une réforme sur laquelle nous engageons la France à poursuivre, qui est la réforme du marché du travail. Parce que ce qu'on observe, c'est que ce sont les pays qui ont fait des réformes du marché du travail qui sont capables de créer plus d'emplois, parce que l'entrée sur le marché du travail est plus fluide et la souplesse est plus grande.
Il y a un débat chez les socialistes.
Je dis ça sans faire quelque chose contre le quoi je m'élève, c'est-à-dire que la Commission dise en détail à la place du gouvernement ce qu'il doit faire. Quand j'étais ministre des Finances, je n'aimais pas ça. Je disais, c'est à la Commission de définir les fins, c'est à l'État de choisir les moyens. Aujourd'hui, commissaire européen, je n'ai pas changé d'avis, mais il faut des réformes déterminées, parce que, au fond, vous savez, un gouvernement, un président de la République est toujours jugé sur ses résultats à la fin. D'ailleurs, ce n'est pas un hasard. Si François Hollande a pris un engagement de lier son propre sort politique à la situation du chômage, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut une mobilisation générale et publique et privée pour l'emploi, contre le chômage dans ce pays, et poursuivre la dynamique des réformes. La réforme, pour moi, je suis un homme de gauche, et je le suis resté. C'est pas le synonyme de moins d'acquis sociaux, c'est pas une destruction. Et la réforme, c'est autre chose, c'est quelque chose qui permet le progrès. Historiquement, la réforme n'est pas une régression. Ce mot réforme a pris des connotations étranges, parce qu'aujourd'hui, on a l'impression qu'une réforme, c'est une position ou un recul. Non, une réforme, c'est ce qui permet d'aller en avant.
Le barrage auquel fait face le ministre de l'économie, Emmanuel Macron, qu'est-ce que vous en pensez?
Il y a un débat sur ces français, on est Macron ou on est Aubry? Pour le social-démocrate que vous êtes, on ne choisit pas?
Je trouve ça très, très caricatural, parfois dans les deux sens.
Bien.
Peut-être juste
mais moi ce qui m'importe c'est pas ce qu'Emmanuel Macron dit sur tel ou tel sujet, ce qui peut parfois
sur les 35 heures ou sur autre chose.
Sur les 35 heures, j'ai été membre du gouvernement Jospin et je reste très fier qu'on ait fait les 35 heures. Et je pense que les 35 heures sont une conquête sociale sur laquelle personne ne reviendra et que la droite elle-même ne remet pas en cause. D'ailleurs,
il n'a pas non plus exactement
dit ce qu'il a dit sur la fonction publique. On sait qu'il y a des choses à bouger, des choses à conserver. Donc je veux pas du tout entrer là-dedans parce que je ne suis plus dans cette politique. Moi, la seule chose que je regarde d'Emmanuel Macron, c'est quoi ? C'est le ministre de l'économie. Et vu de Bruxelles, le ministre de l'économie fait du bon travail. Parce que ce ministre de l'économie est en train de faire bouger un certain nombre de structures. Après, politiquement, franchement, c'est plus mon affaire. Et parfois, je souris parce que je trouve qu'il y a des excès des deux côtés.
Le ministre des Finances aussi, ministre des Finances français des Finances, enfin, le ministre des Finances fait aussi du bon travail ou pas ? Je voulais.
Bien sûr, il faut du très bon travail. Vous savez, moi, comme commissaire, j'ai une obligation de neutralité par rapport au pays parce que je défends l'intérêt général européen. En même temps, j'ai une tâche d'explication devant les Français de ce qu'est l'Europe. C'est ce que je fais avec vous. Et je pense que, vous parliez tout à l'heure de l'audience, les Français commencent aujourd'hui à être quand même attentifs aux problèmes européens.
J'étais au deuxième degré. Je peux être bien. Médiocre en géographie, on l'a
non,
vu.
Non,
mais être soucieux de défendre l'Europe.
Je vais vous faire une confidence. Il y a peu de temps, je ne savais pas non plus que Schengen était au Luxembourg.
C'est parfait.
Mais on me l'a expliqué fortement quand j'ai moi-même fait cette petite erreur. Non. Je me permets de la rectifier.
Mais vous avez
comment on l'a fait pour moi-même.
Il y a un autre traité qui importe beaucoup au sein de la zone euro, c'est le pacte de stabilité et de croissance. Faut-il assouplir son application à la lumière de ce qui se passe sur la crise des réfugiés?
Donc je voulais quand même dire quelque chose, c'est que comme ministre, bien sûr, comme commissaire, je travaille avec le président de la République, je rencontre tous les mois avec le Premier ministre, avec le ministre des Finances, avec le ministre de l'Économie. Sans personnaliser, je vais vous dire une chose, les contacts entre l'exécutif français et la commission, je ne parle pas que de moi, sont aujourd'hui bien meilleurs. Et ça, je suis assez fier de ça parce que j'ai beaucoup parlé aux autorités françaises pour leur dire, plus vous allez à Bruxelles, plus on vous comprend. Et à l'inverse, plus vous comprenez ce que Bruxelles attend de vous. Et le dialogue entre la France et la Commission européenne, aujourd'hui, je peux le dire, est de qualité. Et vous parliez des réformes françaises, elles sont vues de manière beaucoup moins caricaturale à Bruxelles parce qu'elles sont plus connues. Et je pense qu'elles sont plus accentuées parce qu'on intègre davantage ça. Et moi, j'ai toujours été hostile dans mon histoire politique et personnelle à la confrontation avec Bruxelles. Je trouve ça idiot. Je suis favorable au compromis et à la pédagogie.
Le problème, ce sont les opinions publiques. Bruxelles n'a pas tellement le vent en poupe dans le cœur des Français.
J'en suis entièrement d'accord. Je vois dans ce pays un vent d'euroscepticisme extrêmement fort. Il y a une chose qui tient, c'est très important, c'est l'euro. Les Français savent, et ils rejetteront, j'en suis sûr, toutes les formations politiques qui iront dans le sens contraire, les Français savent que l'euro est une sécurité. Ils savent que l'euro, c'est l'appartenance à une union qui fait la force. Et ça, c'est quelque chose d'intangible. Les deux tiers des Français, au moins, sont attachés à l'euro. Ils ont raison. La France, sans l'euro, serait totalement affaibli. Et de ce point de vue-là, les formations d'extrême droite, ou les autres d'ailleurs,
qui font le tiers de l'électorat, hein.
Oui, mais le tiers, c'est pas la majorité. Et je pense que ça, c'est un choix absolument fondamental. Et quand je vois je ne sais quelle proposition de front de libération nationale anti-euro, je tremble. Parce qu'on va mélanger là-dedans toutes les causes. Et en plus, on va attaquer un ferment de force pour la France, qui est l'euro. Je réponds à votre question.
Faut-il assouplir le traité budgétaire, le pacte de croissance et de stabilité, pour tenir compte de l'accueil des réfugiés?
Et j'ai appris à la Commission européenne, où on apprend à tout âge, à ne plus parler ainsi d'assouplissement. Parce qu'il n'y a pas non plus de candidat à l'assouplissement.
Alors adapté.
Je pense qu'il faut utiliser les flexibilités qu'offre le pacte, qui est intelligent, pour s'adapter aux différentes situations. Nous l'avons déjà fait. J'ai fait en sorte qu'un pays qui investisse soit un pays qui ait une approche plus longue de ses déficits. J'ai fait en sorte qu'un pays qui fait des réformes soit un pays qui ait aussi une approche plus compréhensive de ses déficits. J'ai fait en sorte que la situation des pays ne soit pas traitée de la même manière selon qu'ils soient puissants ou misérables, selon qu'ils aient des situations favorables ou défavorables. Et je pense que, s'agissant des réfugiés, la question est bien posée. Le pacte est intelligent, contrairement à ce que disait dans le temps Romano Prodi. Je suis là pour faire respecter le pacte. Tout le pacte est rien que le pacte. En même temps, il prévoit l'éventualité de circonstances exceptionnelles. Donc nous sommes en train d'étudier, sur le plan juridique, et sur le plan financier aussi, ce qui est possible et impossible de faire. Autrement dit, la question doit être objective. C'est pas est-ce qu'on assouplit ou est-ce qu'on change, c'est est-ce qu'on considère que cette crise des réfugiés pose des circonstances exceptionnelles pour tel ou tel pays, en évaluer la mesure et voir quelles conséquences en tirer. Ce travail il n'est pas abouti, donc je ne donne pas, moi, aujourd'hui une opinion définitive, mais il m'a été demandé par la présidente du Conseil, qui se trouvait luxembourgeoise, c'est comme ça que j'ai pris ma leçon aussi, qui a demandé qu'on étudie cela. La Commission rendra son travail, et on en parlera dans les prochaines réunions du Conseil des ministres et du Comité des Finances, non plus cette fois-ci de la zone euro, mais de l'Europe, qu'on appelle le Conseil ECOFIN.
Quelques questions d'actualité.
Donc pas d'assouplissement, mais ouais. Étudier de près l'existence éventuelle de circonstances exceptionnelles, puis ensuite, sur la base de l'examen juridique et technique que nous faisons, prendre les décisions politiques adaptées.
Quelques questions d'actualité rapidement. L'affaire Volkswagen, qui pourrait enrayer en quelque sorte le dynamisme économique de l'Allemagne. On constate aussi que ce sont les Américains et non pas les Européens qui ont soulevé la fraude. Qu'est-ce que vous en pensez?
D'abord, il faut voir s'il y a eu une fraude en Europe. Peut-être tout simplement ont-ils soulevé la fraude parce qu'elle existait chez eux et pas ici. Ce que je crois, c'est qu'évidemment, c'est un choc majeur pour cette industrie, c'est un choc majeur pour le pays et aussi pour l'Union européenne, parce que nous devons absolument veiller. Nous sommes à l'approche de la COP 21 à Paris. Les Européens sont plutôt exemplaires en matière de lutte contre le changement climatique, ils doivent le rester. Donc veiller à ce que nos critères en matière d'émissions soient respectés. C'est la raison pour laquelle la Commission européenne a encouragé tous les États qui le souhaitaient à mener des enquêtes approfondies. C'est la raison pour laquelle nous souhaitons les collationner et c'est la raison pour laquelle nous sommes aussi, la Commission européenne, en contact avec les autorités américaines et avec Volkswagen. Disons les choses simplement, il y a une obligation absolue de transparence si nous voulons rester crédibles, et cette transparence elle doit être totale, notamment de la part de Volkswagen, parce que Volkswagen, qui a changé de dirigeant, a un enjeu d'image déterminant par rapport maintenant à sa capacité à dire ce qui s'est passé et à résoudre les problèmes, d'autant qu'il y a aussi des interdictions de certains véhicules, notamment aux États-Unis.
Que dites-vous du moment où cette affaire est révélée au public? En fait, on est dans un moment aussi de négociation avec les États-Unis sur un partenariat transatlantique pour le commerce, donc une grande zone de libre-échange où on discute des normes pour les constructeurs automobiles, les normes américaines, les normes européennes. Quel impact cette crise de Volkswagen pourrait avoir sur ces discussions?
Écoutez, je ne suis ni complotiste ni naïf. Je ne pense pas que ce moment vienne de je ne sais quelle volonté de peser là-dessus. Je ne suis pas naïf sur le fait que ça peut être utilisé dans des discussions. Moi, sur ce qu'on appelle le TTIP, c'est-à-dire cet accord transatlantique, j'ai d'une part une position de principe. Je pense qu'il ne faut pas l'aborder, comme certains le font, avec une espèce de négativité de principe idéologique. Non, un accord de libre-échange entre les États-Unis et l'Europe, ça peut être positif. Ça peut être positif pour eux et surtout positif pour nous, parce que le marché américain est moins ouvert que le marché européen. Oui, mais, et il y a un gros mais, encore faut-il être capable de faire un accord qui soit par le haut, qui aussi défend nos propres intérêts, et le respect des normes en fait partie, notamment des normes environnementales. Et ça nous appelle plutôt à élever le jeu qu'à l'abaisser.
Autre point d'actualité, en ce moment même, élection en Catalogne. Si l'Espagne perdait, ce qui représente une région extrêmement importante et 20% de son PIB, est-ce que ça affaiblit l'Europe, comme ça aurait pu l'être en Écosse, ou bien est-ce qu'au contraire, on en tiendrait acte et puis la Catalogne pourrait rejoindre elle-même l'Union européenne?
J'ai un principe auquel je me suis tenu, par exemple, pendant toutes les élections grecques, auquel je vais me tenir aujourd'hui, c'est que quand ce sont des électeurs qui parlent, on les laisse parler.
Bon.
Et puis ensuite, on voit. Je pense en même temps que nous avons intérêt à avoir le plus grand nombre de grands ensembles dans l'Union européenne.
Donc de même pour la Grande-Bretagne, donc le Brexit...
Non, la Grande-Bretagne, les élections ne sont pas tout de suite, donc je peux en parler un peu plus.
Mais le référendum est l'année prochaine, pour savoir si on reste...
Écoute, la Catalogne, c'est
aujourd'hui.
C'est aujourd'hui, donc on va quand même laisser des... comme ils regardent tous les 25 membres...
Naturellement,
j'ai pas du tout...
Et qu'ils écoutent RFI.
Et qu'ils écoutent RFI, qu'ils lisent le monde en ligne. Je ne vais pas intervenir dans les élections catalanes.
Mais en Grande-Bretagne, ce qu'on voit, c'est que l'option Brexit, sortie de la zone euro, enfin de l'Union européenne, pardon. Cette option est en train de prendre le dessus, ou est-ce que donc vous vous apprêtez à lâcher du lest dans les négociations avec Cameron?
Je ne sais pas si elle prend le dessus. Ce qui est certain, c'est que La crise des réfugiés a un impact sur l'opinion publique en Grande-Bretagne qu'il ne faut pas négliger. Il existe, l'ignorer serait stupide. Non, moi je suis favorable à ce que la Grande-Bretagne reste dans l'Union européenne. Je crois que c'est décisif. Je pense que c'est aussi le cas de Monsieur Cameron. Après, nous allons avoir une négociation. Et dans cette négociation, ce qui importe, c'est que Monsieur Cameron dise exactement ce qu'il souhaite. Et là-dedans, il y a des évolutions qui seront d'intérêt commun. Il y a des choses que les Européens pourront accepter, bien sûr, dans les relations entre la Grande-Bretagne et l'Union européenne. Il y a aussi des choses fondamentales qui ne pourront pas être remises en cause.
La circulation, notamment.
Ça a été dit. Et donc, voilà. Il peut y avoir des changements de traité, mais des changements de traité limités. Bref, attendons. La balle est dans le camp de M. Cameron.
On attend.
Mais il faut aussi qu'ils aient des demandes sans doute fortes pour convaincre son opinion, aussi réalistes pour convaincre ses partenaires.
Merci, Pierre Moscovici, d'avoir répondu à l'invitation.